Alors du coup, je suis le seul du séminaire à ne pas avoir d'activité d'analyseur de pratique, et je vais parler à partir de ma place d'éducateur spécialisé qui est première, même si je suis effectivement étudiant en psychologie depuis quelques années, mais c'est à partir de cette place d'éducateur spécialisé que je parle aujourd'hui, principalement. Alors, pour commencer, on va s'adapter. Je vais parler fort. Sinon. Pour commencer, s'il est devenu courant aujourd'hui de dire qu'il n'y a plus d'institution, que nous sommes passés d'une logique d'institution à une logique de réseau ou de plateforme, j'ai choisi malgré tout de conserver cette appellation pour désigner les structures du champ social et médico-social, d'où mon titre. Peut-être par habitude, mais aussi parce qu'il me semble que plus que de leur disparition, il s'agit aujourd'hui de leur reconfiguration ou de leur métamorphose. En ce sens, parler d'institutions modernes m'est apparu approprié. Pour mieux comprendre les réalités que recouvre cette notion d'institution moderne, la pensée du sociologue Zygmunt Bauman, que certains connaissent peut-être, est un point d'appui précieux. Ce dernier parle de la période moderne actuelle comme d'une ère liquide. Sur le plan de la physique, contrairement aux corps solides, les corps liquides ne conservent pas leur forme lorsqu'ils sont pressés ou poussés par une force extérieure, aussi mineure soit-elle. Les liens entre leurs particules sont trop faibles pour résister. D'où la métaphore de Bauman avec nos sociétés modernes actuelles, évoluant désormais dans des situations de changement constant et au sein desquels les liens humains sont devenus ténus, précaires. Les institutions modernes de la mésinscription sont traversées de plein fouet par ce mouvement infernal de changement constant, jusqu'à en être au bord de la rupture pour certaines. La tendance à substituer la notion de réseau à celle de structure traduit d'ailleurs parfaitement ce nouvel air du temps. Comme le rappelle Bauman, contrairement aux structures d'avant, dont la raison d'être était d'attacher les individus par des nœuds difficiles à dénouer et souvent fortement coercitifs, les réseaux, eux, servent autant à connecter qu'à déconnecter. Plusieurs des traits majeurs caractérisant cette ère moderne se retrouvent immanquablement dans les institutions du champ social et médico-social, que ce soit pour les usagers ou pour les professionnels. Comme par exemple, la capacité d'abandonner des habitudes présentes devenues plus importantes que l'apprentissage de nouvelles habitudes. Ou la mise en mouvement permanente demandée à des individus dont la défixation devient alors chronique. Mais, et il me semble que ce matin ça l'imageait assez bien, c'est surtout la liberté de choix et de manœuvre qui a été élevée au rang de méta-valeur, condition d'accès à toutes les autres valeurs. De plus en plus, les individus sont appelés à être des homo eligans, c'est-à-dire des acteurs capables de choix autonomes. Avec comme principal effet pervers, me semble-t-il, le fait que ces mêmes individus sont invités à trouver dans leur propre vie et leurs ressources personnelles des solutions aux contradictions du système global. Mais il me semble aussi que la majorité d'entre nous ne dispose pas, la plupart du temps, des ressources requises pour devenir et demeurer ces individus de facto. En outre, il n'est absolument pas sûr que des solutions individuelles à des problèmes socialement construits existent réellement. Et c'est ce même mouvement qui me semble avoir cours dans la plupart des institutions modernes de la mésinscription, tant dans ce qui est demandé aux usagers de ces structures qu'aux professionnels. Au premier, il est demandé d'être acteur de leur projet, d'être capable d'identifier leurs besoins, sans prendre toujours le temps de considérer les mouvements de résistance que cela peut provoquer et sans penser que cette question du choix peut avoir parfois pour l'autre un effet de sidération totalement paralysant. Quant au second, les professionnels dont je suis, ils se retrouvent parfois, ou même souvent, positionnés dans un rôle de prestataire sans la possibilité de prendre le temps d'une rencontre intersubjective appelant nécessairement à une autre temporalité. Au regard de cela, à cette époque de modernité liquide, pour reprendre le terme de Bauman, ceux qui cherchent le salut seraient bien avisés de bouger suffisamment vite pour ne pas risquer de trop solliciter la résistance de chaque endroit. Les institutions modernes, elles-mêmes bousculées par cette dynamique de mouvement permanent, se devraient d'avoir pour objectif de participer à une tentative de décélération de ce processus d'accélération, pour reprendre le terme d'Hartmut Rosa. Mais néanmoins, au vu de ce qui se passe, cela ne paraît pas être la préoccupation première de la plupart d'entre elles. À cet endroit, l'espace de l'analyse de la pratique se trouve souvent investi comme un espace où la temporalité et la groupalité peuvent être envisagées de façon différente. Pourtant, de façon paradoxale, l'espace de l'analyse de la pratique, comme l'a introduit Gaïa, n'est pas contesté ou remis en cause ni par les financeurs, ni par les institutions modernes. Le guide des bonnes pratiques de l'ANESM lui-même recommande l'analyse de la pratique comme un espace indispensable aux professionnels pour soutenir et penser leur travail et les difficultés qu'ils y rencontrent. Pourtant, au vu de ce qui se joue au cœur des institutions et des mouvements qui les animent, un espace qui se proposerait de considérer le travail dans un après-coup et qui s'appuierait sur un appareil groupal pour le penser, se situerait normalement à contre-courant de ce qui mène le secteur social et médico-social dans son ensemble. Ce contre-courant tient à la différence notamment de considération induite par un tel espace, à la fois du sens du travail des professionnels, mais aussi des situations mêmes des usagers et des symptômes qui s'y expriment. Là où les institutions modernes tendent dans leur ensemble à élaborer des dispositifs d'interaction retirant tout sens au comportement qui dévie la norme, les transformant simultanément en une contrainte au niveau de la gestion, une bonne part des professionnels et une autre encore plus grande des usagers se retrouvent en grande difficulté à pouvoir inventer un quelconque ailleurs social. L'espace de l'analyse de la pratique se trouve nécessairement convoqué à cet endroit de dissociation et non plus de conflictualité, comme cela a pu être le cas auparavant, entre les professionnels participants de ces institutions modernes et le cadre qui les régit. Il en est d'ailleurs en quelque sorte le symbole de ce mouvement dissociatif entre cadre institutionnel moderne et tâche primaire des professionnels. Puisque s'il lui est fait une place incontestée, il reste à la marge, aux confins de la vie institutionnelle, quand cet espace n'est pas lui-même reformaté à l'aune d'une connivence affichée avec ses mouvements de non-pensée. Je vais boire un coup.
Merci. Je me propose...
Je n'ai pas fini. J'en ai encore plein. C'est trop long.
Ça, c'est la sociologue.
Ah, faut que ça soit concis. Non, mais j'en ai plein. Non, j'ai dit, je vais boire un coup. On m'avait dit 20 minutes, mais je suis resté dans le cadre de 20 minutes. C'est vrai? Ça doit vraiment être chiant, là. Bon. Alors, pour ceux que ça intéresse...
Ceux-là sont beaux.
Pourtant, j'ai essayé de faire des emprunts sociologiques en majorité, quand même, hein, sachant que vous étiez là. Donc, cela présage déjà le considérable ascendant qu'exerce le caractère moderne sur les institutions qui, en généralisant de telles pratiques, contribuent, paradoxalement à la mission qui leur est confiée, à renforcer un mouvement général d'exclusion. Marie Douglas, anthropologue, résume cela très bien en disant que la condition humaine contemporaine, au lieu de nous aider à surmonter la peur primitive de l'altérité, nous pousse à redéfinir l'autre pour le redouter. Cette nouvelle attitude à l'égard des comportements qui dévient la norme est une retombée des formes nouvelles de régulation sociale. Et si les déviants, le terme est ici pour moi d'une accession large dans le sens de dévier de la norme, ne sont plus considérés comme des individus moralement incorrigibles à condamner, et qu'il leur est accordé le fait d'être désavantagés ou vulnérables, ils sont quand même désormais à éviter, voire à dissoudre. À cet effet, le vocabulaire par lequel on désigne les passages à l'acte ou les situations ressenties comme inextricables s'est modifié au gré de l'évolution structurelle du secteur. On parle ainsi maintenant d'événements indésirables, de cas complexes, et j'ai même entendu récemment un directeur général d'une grande association parler d'usagers résistants. C'est ceux vraiment avec qui on n'arrive rien à faire. Il me disait qu'il y en avait 20%. Je ne sais pas d'où il sortait ce chiffre, mais bon, ça s'avère de lui parler. Tout semble converger vers un mouvement d'extériorisation, voire d'expulsion, de ce qui viendrait troubler la bonne marche en avant de dispositifs d'aide aux plus fragiles. D'autant plus lorsque ces derniers paraissent ne pas suffisamment indexer leur comportement, leurs demandes ou leur volonté à un projet de vie ou d'insertion répondant de façon suffisamment convenable et explicite à la commande sociale avec les attendus que cela présuppose. La prégnance, voire le règne de la pensée positive du projet au sein de beaucoup d'institutions, tend à repousser toujours plus la dimension du négatif nécessairement à l'œuvre dans ces situations de mésinscription vers le seul espace de l'analyse de la pratique. En effet, peu d'autres espaces institutionnels ou simplement groupales reprennent cette dimension à leur compte dans l'exigence d'un travail de pensée, ce qui crée alors au cœur de ces institutions une négativité double ou redoublée. L'espace de l'analyse de la pratique se voit ici être à la fois objet d'une attente et d'un investissement massif, notamment de la part de certains professionnels, tout autant qu'espace de recyclage supposé d'un négatif que les institutions paraissent ne plus souhaiter voir. Cela n'est pas un phénomène nouveau, mais il me semble que cela s'est amplifié, notamment avec le fait que ces institutions sont davantage préoccupées par le fait de mettre en avant une vie institutionnelle dynamique au travers de projets toujours plus innovants, de dispositifs toujours plus flexibles, plutôt que par ce qui trouble, ce qui met en échec ou ce qui résiste dans le vécu d'une relation d'aide. D'autant plus quand leur activité est désormais évaluée, quantifiée, au regard d'un prisme d'efficience économique. Le même directeur général, dont l'échange m'a beaucoup marqué ces derniers temps, définissait l'efficience ainsi, il m'a dit « maintenant il faut faire mieux avec moins ». Vaste injonction paradoxale qui laisse peu de doute quant à l'objectif visé. On peut donc s'interroger, malgré sa légitimité affichée, sur la capacité de l'espace de l'analyse de la pratique à pouvoir interagir sur de tels enjeux, notamment du fait de son confinement à la marge de la vie institutionnelle, parfois même sans corrélation aucune avec cette dernière. C'est ici que m'est venue une association avec l'image des murs végétaux dépolluants qui commencent à fleurir dans certains lieux urbains dont on souhaite assainir l'air ambiant. Alors, pour rappel, j'ai lu sur Wikipédia pour vous dire. Pour rappel, le procédé d'un mur végétal, un dépolluant, consiste en un mur vertical de terre qu'on monte à quelques centimètres d'un bâtiment sur lequel on fait pousser des plantes. Concrètement, à l'intérieur de ce mur végétal, des petits tuyaux acheminent de l'air pompé dans l'espace pollué, qui est ensuite rejeté dans la terre, où des micro-organismes, comme des bactéries ou des champignons, métabolisent certains polluants et jouent ainsi un rôle de filtre. La dépollution est alors effectuée par cette biofiltration et par l'action assainissante des plantes et de leurs racines. Manière de dépolluer consensuelle sans remettre en cause l'origine même du contexte de pollution. Et ce qui a fait dire par exemple à un élu lyonnais lors de la mise en place d'un tel édifice dans le quartier de Perrache, il y a un mur de dépollution dans le quartier de Perrache, dont on connaît tous la problématique écologique, et il avait dit que cela devait permettre de naturaliser la ville sans mordre sur les espaces constructibles. Voilà, il s'appelle Monsieur Buma, je ne sais pas, il doit faire partie du conseil municipal, j'imagine. Le parallèle que je fais ici entre l'analyse de la pratique et le mur végétal est le fruit d'une association libre, mais m'a été aussi soufflé par le travail de l'anthropologue britannique Mary Douglas sur les pollutions sociales. La bascule entre le traitement des pollutions environnementales et celui des pollutions sociales me paraissant avoir des échos intéressants par rapport au sujet du jour. Mary Douglas entend la pollution sociale comme ce qui n'est pas à sa place, comme quelque chose qui a franchi une ligne qui n'aurait pas dû être franchie. De ce franchissement résulte un danger pour la société. Ce n'est pas tant l'intention de celui qui a franchi cette ligne qui compte que le danger qui en résulte. Pour les peuples autochtones auprès de qui elle a étudié ce phénomène. Marie Douglas, c'était un travail qu'elle a dû faire dans les années 60, donc c'est aussi daté, hein, mais elle l'a repris après. Ce n'est pas l'idée d'une éventuelle intentionnalité de celui qui a franchi cette ligne qui compte. Elle peut ainsi être commise par inadvertance ou par oubli de soi, mais son résultat vis-à-vis de la structure sociale dans son ensemble. Elle définit ainsi quatre types de pollution sociale. Le danger qui guette les frontières extérieures d'un système social et fait pression sur elles. Le danger encouru lorsque des frontières internes de ce système sont franchies. Et le danger qui se situe en marge de ces frontières internes. Enfin, le quatrième type de pollution sociale, qui à mon avis fait bien écho avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le danger provenant des contradictions internes au sein d'un système social, lorsque par exemple des postulats fondamentaux sont niés par certains, de sorte que le système paraît être en guerre contre lui-même. Les dimensions que recouvre ici la pollution sociale me paraissent donc faire écho à la façon dont les institutions modernes reçoivent et considèrent les usagers qu'elles accueillent et les situations dans lesquelles ces derniers se trouvent. La particularité des situations rencontrées, qui tiennent pour la plupart de l'errance, de la mésinscription ou d'une mise au ban de la structure sociale, se retrouvent en un sens toutes à troubler l'ordre social établi. Et le goût prononcé actuel, me semble-t-il, des institutions modernes pour la classification des troubles ou le traçage des parcours me laisse penser, si des personnels, hein, que leur assimilation à des situations polluantes n'est pas complètement hors de propos. Marie Douglas parlerait ici de sindinisation de la société, c'est-à-dire un mouvement défensif qu'ont l'ensemble des sociétés modernes et par lequel elles tendent à percevoir le monde avant tout à partir d'une catégorisation de la menace. Je fais juste un petit aparté. Hier, dans le cadre de mon travail, j'accompagnais une personne à Vaux-en-Velin et on a trouvé en bas d'un bâtiment un monsieur qui était à terre, qui visiblement s'était sûrement fait agresser. Enfin voilà. Et j'ai appelé les pompiers. Les pompiers m'ont dit, quand j'ai dit ça d'avoir en blanc et que c'était une agression, appelez la police. J'ai appelé la police. Et la police, ils me disait, appelez les pompiers. Et les pompiers disaient, appelez le SAMU. Ils ont mis 40 minutes à venir. Bon, la situation n'était pas dramatique. Il y avait le bassin fracturé, etc. Enfin, voilà. Si ça avait été ailleurs qu'à Vaux en blanc, j'imagine que le temps n'aurait pas été le même. Quoi. Voilà. Donc, il me semble que c'est quand même aussi à l'œuvre. Alors, pourtant, les pollutions sociales, si elles sont considérées par l'ensemble des sociétés comme des dangers, internes ou externes, ne peuvent être circonscrites à cette seule dimension. Car si dans ses contours, une société contient le pouvoir de récompenser le conformisme et de repousser l'agression, c'est avant tout dans ses marges et ses régions non structurées qu'existe un grand potentiel d'énergie, ainsi qu'un réservoir fort des symboles qui la définissent. Nos comportements vis-à-vis de ces pollutions traduisent notre tendance à condamner tout objet, tout sujet susceptible de jeter la confusion sur ou de contredire les classifications, la normativité si précieuse à la conservation d'un ordre social établi rassurant. C'est là, me semble-t-il, qu'il y a quelque chose de fondamental auquel est convoquée l'instance d'analyse de la pratique et par essence ceux qui vont se chercher d'en animer la conduite. À cantonner cet espace d'analyse de la pratique à un espace neutre, apolitique, qui ne prendrait pas parti, le risque est grand de transformer ce dernier en un mur végétal, simple élément contextuel d'une tentative de dépollution passive, désubjectivée et déconnectée des vies institutionnelles et sociales. Si l'analyse de la pratique n'a pas vocation à être mur végétal, je ne dis pas pourtant qu'elle doit être le lieu d'une contestation ou d'une agitation manifeste ou militante. La dimension éminemment politique de l'analyse de la pratique repose plutôt, à mon sens, sur ce qu'une considération autre, du contenu même de ce qui se joue dans la relation d'aide, va rendre possible en retour au sein de l'espace institutionnel dans son ensemble. À cet endroit, considérer la pollution sociale non comme un événement indésirable, mais comme l'indication d'un désir, d'une humanité commune, participe d'une remise en sens de la mission des professionnels et de ce qui se joue entre eux et les usagers. Cette remise en sens, tant de la professionnalité des uns que de la subjectivité des autres, au-delà d'un rabotement de la relation d'aide en un échange besoin-prestation, peut permettre d'inscrire, malgré tout, la relation d'aide dans une économie réelle de rapport humain et non dans une excluante et exclusive relation comptable. Si l'espace de l'analyse de la pratique n'est pas un espace de résistance à proprement parler, il ne peut être légitime, à mon sens, qu'à la condition d'être intimement liées à la mise en sens de ces dernières. Ces résistances sont à entendre à plusieurs niveaux. D'une part, en proposant une écoute et une possible interprétation dans un transfert de groupe de résistances mortifères qui envahissent l'espace institutionnel, mais aussi d'autre part, en donnant la possibilité à ces mêmes groupes de professionnels de faire exister un espace de conflictualité et de pensée, socle indispensable pour tenter de résister au sein de ces institutions modernes et aux pollutions nouvelles qu'elles émettent. Certes, l'espace de l'analyse pratique seul ne peut porter une telle exigence, mais il est certain que c'est souvent dans les confins de la marge que se jouent les révolutions. Pour conclure, en écho au mouvement mélancolique qui parfois nous prend, je ne pense pas être le seul, j'imagine, je reprendrai ce que disait Félix Guattari à propos de l'entrée dans la dépression. Et je terminerai là-dessus. On est encerclé par des murs de signification, par le sentiment d'impuissance, par le sentiment que rien ne peut changer, par le sentiment que c'est toujours pareil. Et puis quelquefois, il suffit d'une faille dans le mur. Il suffit de quelque chose pour qu'aussitôt on s'aperçoive que le mur, il est perméable. C'est ça, la gestion de la dépression. C'est à la fois accepter ce vertige d'abolition et peut-être reconstruire une vision du monde, un éclairage.